Donc, au cours précédent, je vous ai toujours pris au milieu du gué, c'est-à-dire que nous étions au début de la crise finale de la crise de Suez, de l'épisode final, avec l'invasion israélienne du Sinaï. En même temps, l'Union soviétique est plus ou moins paralysée par les évolutions politiques en cours en Pologne et surtout en Hongrie. En particulier quand Imre Enay a décidé de retirer la Hongrie du pacte de Varsovie. Alors, selon le plan prévu, les Français et les Britanniques publient leur ultimatum dans l'après-midi du 30 octobre, demandant l'arrêt des combats et l'acceptation de l'occupation temporaire par les forces franco-anglaises de la région du canal. Et en même temps, les deux puissances utilisent leur droit de veto à l'ONU pour s'opposer à une résolution américaine demandant le retrait des forces israéliennes du Sinaï. Puis ensuite, une soviétique sur le même thème. Alors, le résultat, c'est qu'évidemment, les bombardements franco-britanniques commencent le 31 octobre. Alors, vous savez, pour la crise de Suez, comme dans toutes les crises du Moyen-Orient, il y a toujours un problème d'horaire parce que la crise se situe à la fois au Moyen-Orient, mais aussi aux États-Unis et en Union soviétique. Donc, il y a des chevauchements de fuseaux horaires et parfois il est un jour quelque part et la veille autre part ou inversement. Donc ce sont toujours des indications un peu, disons, faibles qu'on vous dit dans l'après-midi, c'est le matin à Washington et c'est le soir à Moscou. Les bombardements commencent visant des objectifs militaires, des aéroports et civils, des émetteurs radiophonique. Alors, c'est la fameuse phase aéropsychologique, mais bien évidemment, ça pose toujours le problème parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des bombardements dans le genre de ceux de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient des bombardements indiscriminés des populations civiles, ce que les Anglais appelaient le moral bombing, le bombardement moral, c'est-à-dire bombardement pour détruire le moral des populations adverses. Donc, ces raids pouvaient faire des dizaines de milliers de morts. En 1956, on ne peut plus se permettre de bombarder comme cela des populations civiles. Et en même temps, il y a la jonction de la crise égyptienne avec la crise hongroise. Et ça qui est essentiel par rapport au cours que j'ai fait il y a une dizaine d'années, on a progressé dans la connaissance des événements. Pour Khrouchtchev, il est impossible, impensable, de perdre en même temps deux alliés, l'Égypte et la Hongrie. Il donne la priorité à la Hongrie en lançant la plus importante opération militaire en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en quelque sorte, on comprend aujourd'hui que l'intervention militaire soviétique en Hongrie est liée directement à Suez. Peut-être qu'elle aurait eu lieu de toute façon, on ne peut pas le savoir. Mais la décision a été prise en fonction de l'attaque tripartite, contre l'Égypte. L'armée rouge doit prendre Budapest, quel que soit le prix, en termes de pertes civiles. L'abandon de la solution politique envisagée se comprend à la fois par l'abandon par Naï du monopole politique du parti et par l'ultimatum franco-britannique. Comme il n'est pas possible de mener à la fois les deux opérations Suez et Budapest, les soviétiques se tiennent en retrait de l'action en Égypte. Quand le président Kouwatli, le président syrien qui est à Moscou, en visite officielle, enfin en visite de travail en tout cas, pose la question, on lui fait comprendre que on ne peut pas intervenir. C'est le maréchal Joukov, le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, qui lui montre sur la carte que l'Union soviétique n'a pas les moyens d'intervenir à Suez. Donc, pendant plusieurs jours, les Soviétiques vont être accaparés par la situation en Europe centrale. Khrouchtchev a obtenu de Tito que son accord pour l'intervention soviétique en Hongrie, parce que Tito ne peut pas accepter, en bon leader communiste qu'il est, l'abandon du monopole du pouvoir par le Parti communiste. Et donc, le 4 novembre, l'offensive soviétique est lancée. Chez les Américains, ça a été une indignation. On considère que c'était un coup de poignard dans le dos d'intervenir sciemment à deux ou trois jours de l'élection présidentielle américaine. Et immédiatement, les Américains ont vu le point sensible de l'intervention franco-britannique, c'est la question pétrolière. Puisqu'on risque de voir l'accès du pétrole du Moyen-Orient coupé par la crise. Et donc, à ce moment-là, les Européens devront se tourner vers les États-Unis pour se ravitailler, donc acheter du pétrole de là, enfin, des États-Unis et le Venezuela. Le Venezuela est à l'époque le premier pays exportateur mondial de pétrole. Le Venezuela, à lui tout seul, fait plus que l'ensemble du Moyen-Orient en 1956 en exportation et en production de pétrole. Mais c'est du pétrole dollar. Alors, comme vous le savez, je vous ai expliqué longtemps, l'Europe est en pénurie de dollars. C'est le dollar gap qui est là. Et donc, celui qui s'en rend compte à Londres, brusquement, que l'Angleterre est extrêmement vulnérable, c'est le chancelier d'Échiquier, donc le ministre des Finances, Harold Macmillan, et qui commence à découvrir que, tout simplement, la livre sterling risque de s'effondrer. Alors, la colère américaine contre les Anglais est terrible. Contre les Français, elle est moindre, parce que, de toute façon, tout le monde sait que les Français ne sont pas fiables. Donc, on n'est pas surpris qu'ils aient encore fait une bêtise, en quelque sorte. C'est dans leur caractère. Il ne faut pas oublier que l'image de la France dans les années 50 est une image affaiblie, d'abord par la défaite de la Seconde Guerre mondiale, les guerres coloniales, l'instabilité politique de la Quatrième République. Nous pensons toujours en fonction d'une Cinquième République avec un régime présidentiel fort et autoritaire. Ce n'est pas le cas de la Quatrième République, qui est un régime tout à fait instable. Il faut reconnaître aussi que les Français sont corrects, puisque Pinault explique à l'ambassadeur américain pratiquement le mécanisme de la collusion avec Israël, alors que les Britanniques démentent qu'il y a eu toute collusion. Puis je vous rappelle donc aussi les caractères liés à la Seconde Guerre mondiale. Macmillan était un compagnon d'Eisenhower en Afrique du Nord, tandis que Mollet et Pinault sont des résistants. Donc, ils n'ont pas la même culture ou la même approche. Alors, la motivation américaine est essentiellement géopolitique, parce que les Américains n'aiment pas du tout Nasser, bien évidemment. S'aligner sur les puissances coloniales européennes serait livrer les pays sous-développés à l'Union soviétique. Sous-développé étant le terme utilisé à l'époque, avant qu'on utilise un peu plus tard pour faire par politesse, en voie de développement. Dans le monde nouveau qui est en train d'émerger, il faut avant tout préserver la tradition anticoloniale des États-Unis, capital politique essentiel pour les années à venir. Donc Nasser se précipite du côté des Américains pour demander des secours, parce qu'il sait que pour l'instant l'Union soviétique ne fera rien. La réponse américaine, c'est que les Américains vont agir dans le cadre de l'ONU, et qu'ils n'acceptent pas cette trahison, en quelque sorte, des alliés occidentaux européens, puisque on était sur le point de montrer toute la fausseté du régime soviétique avec l'intervention en Hongrie, Et voilà qu'on fait du colonialisme au Moyen-Orient, ça casse tout à fait l'effet géopolitique de la crise. Alors, de surcroît, nous sommes à une époque où le personnel politique américain est plutôt d'une très grande honnêteté par rapport, pourrait-on dire, à la situation plus contemporaine. Eisenhower est un homme d'État et Adlai Stevenson, son concurrent à l'élection présidentielle, est aussi un homme tout à fait honorable. Alors, d'un côté, il accuse Eisenhower d'avoir laissé les Soviétiques établir une tête de pont au Moyen-Orient et de risquer d'entraîner les États-Unis dans une guerre. Mais en même temps, il laisse plus ou moins Eisenhower gérer la crise. Parce que c'est quand même le président des États-Unis et celui qui a la plus grande expérience politique de ce genre de situation. La question traditionnelle américaine est de savoir si les États-Unis entrent en guerre, il faut-il saisir le Congrès. C'est toujours le problème de l'autorité constitutionnelle, de celui qui déclare la guerre aux États-Unis. Il faut un vote du Congrès. C'est un problème d'autant plus compliqué, c'est que à partir de la seconde moitié du XXe siècle, il n'y a plus de guerre, au sens juridique du terme. Avant, quand on faisait une guerre, on la déclarait, on envoyait un message, on rappelait son ambassadeur, etc. Donc il y avait tout un protocole de l'entrée en guerre et par conséquent, sur le plan juridique, c'était facile, il suffisait de saisir le Congrès des États-Unis. Mais là, on est dans des interventions militaires, de ce qu'on peut appeler des opérations de police, et on est sur une situation juridique beaucoup plus ambiguë. En tout cas, Eisenhower décide de gérer directement la crise, laissant à son vice-président, Nixon, la charge de continuer la campagne électorale. Alors, il faut bien voir le calendrier. Le 4 novembre, c'est l'attaque soviétique sur Budapest, l'entrée de l'armée rouge dans Budapest, et le 6 novembre, c'est le début théorique du débarquement des franco-britanniques à Port Saïd. Alors, ce délai entre l'ultimatum et l'attaque, on a expliqué pourquoi il y a l'autre jour, néanmoins, c'est une très grande vulnérabilité parce que partout dans le monde arabe, il y a des violentes manifestations contre les Français et les Britanniques. En Syrie, par exemple, on brûle le consulat de France à Alep, si mes souvenirs sont bons. Mais c'était une époque qui n'était pas très méchante. On m'a raconté quand j'étais en Syrie qu'il y avait des touristes français qui avaient vu une manifestation à Alep et qui avaient suivi la manifestation. Et un des manifestants s'était aperçu que c'était des Français. Il avait dit, s'il vous plaît, sortez, parce que vous risquez d'avoir des ennuis. C'est-à-dire qu'on ne visait pas les personnes à l'époque. Alors, l'alliance de facto qu'on perçoit avec Israël, entre la Grande-Bretagne et Israël, évidemment affaiblit l'allié principal des Britanniques au Moyen-Orient, qui est l'Irak hachémite. Et puis surtout, celui que j'appelle le grand affreux, Ahmed al-Amil Sarraj, excusez-moi pour le chac de la gorge, qui commence à faire du sabotage de travail. Donc Sarraj, qui est le chef du deuxième bureau syrien, fait sauter l'oléoduc de l'IPC, qui amène donc le pétrole de l'Irak, à la Méditerranée, à travers la Syrie et le Liban. Il a fait ça sans aucune instruction du gouvernement syrien, mais en liaison directe avec les services égyptiens. Donc le pétrole irakien n'accède plus à la Méditerranée, contrairement au pétrole saoudien de la Tapline qui, lui, est épargné à ce moment-là. Mais l'Aramco a pris l'engagement que le pétrole de l'Aramco n'aille pas vers la France et la Grande-Bretagne. Et en plus, comme je vous l'ai rappelé, l'Aramco, c'est du pétrole dollar, tandis que les PC, c'est du pétrole sterling. Donc, à cette date, 80% de la consommation européenne de pétrole vient du Moyen-Orient. Donc, on sent la vulnérabilité. Alors, tous les États arabes rompent les relations diplomatiques avec les agresseurs, sauf le Liban qui maintient les relations avec la France, la Grande-Bretagne et l'Irak qui maintient les relations avec la Grande-Bretagne, mais pas avec la France. Évidemment, les Européens vont être obligés de se tourner vers les Américains qui disent « on étudie la question », ce qui en fait veut dire un moyen de pression directe sur les Européens. En Jordanie, le roi Hussein voulait intervenir dans la guerre, mais son entourage le dissuade et les Nasser lui avait déjà expliqué qu'il valait mieux pas. Et ça aurait en plus perturbé complètement le plan britannique, puisque l'Irak aurait soutenu la Jordanie et donc ça aurait mis le pacte de Bagdad en guerre avec Israël, ce qui, évidemment, est une situation totalement chaotique. Or, la seule chose que feront les Jordaniens dans la guerre, c'est la destruction par leur DCA, la force contre-avion, d'un avion israélien égaré au-dessus de la Cisjordanie. Alors, c'est intéressant parce que dans l'avion, les Jordaniens ont trouvé tous les plans de combat israéliens. Et donc, ils se sont fait un plaisir de les publier, en particulier des critiques sur la politique militaire de Moshe Dayan qui se trouvait dans les documents qu'ils ont récupérés. Alors, le problème, c'est que sur le terrain, à cause de l'ultimatum franco-britannique, Nasser et Amer ont donné l'ordre à l'armée égyptienne de se replier sur le canal. Et évidemment, le repli sur le canal se passe dans des conditions catastrophiques puisque l'aviation israélienne et française bombarde les soldats égyptiens en retraite, puisque le seul, la force, enfin, seul avantage stratégique des Égyptiens, c'était la défense statique. Et donc, les Israéliens font de 5 à 6 000 prisonniers dans l'opération. Ce qui est assez clair, même s'il y a eu des grands démentis, il y aurait eu plusieurs centaines d'exécutions sommaires de prisonniers de guerre égyptiens dans les opérations, ainsi que de civils égyptiens dans le Sinaï. Le 4 novembre, les Israéliens arrivent au détroit de Tiran et prennent Sharm el-Sheikh. Le lendemain, ceci avec le soutien de la marine de guerre française. L'occupation de la bande de Gaza commence le 2 novembre, là encore avec le soutien de la marine française. Environ 4000 fédayines, soldats égyptiens et gardes frontières sont faits prisonniers. Un certain nombre d'exécutions sommaires, surtout de fédayines, ont eu lieu. 275 civils palestiniens sont tués lors d'une opération de ratissage à Khan Younes. Et des violences du même genre ont lieu les jours suivants. Pour la totalité de la période de l'occupation israélienne de la bande de Gaza, c'est-à-dire jusqu'au 7 mars 1957, le nombre de Palestiniens tués se situerait entre 930 et 1200 personnes. La conséquence de l'ultimatum, c'est d'avoir ramené l'armée égyptienne sur le canal, d'où le fait qu'elle a décroché par rapport à l'armée israélienne. Et donc, l'intervention pour séparer les combattants n'a plus de sens puisque les combattants sont de facto séparés, puisque les Français et les Anglais ont demandé aux Israéliens de ne pas aller au canal Donc la situation est encore plus ridicule. Les bombardements ont amené des destructions dans le canal, en particulier de bateaux, et par ailleurs, les Égyptiens coulent aussi d'autres bateaux dans le canal, c'est-à-dire que de toute façon, la circulation dans le canal est interrompue, et ça pour une longue durée, puisqu'il faudra des travaux de dégagement du canal. Donc après l'oléoduc de l'EPC, le canal de Suez est la seconde voie d'accès du pétrole du Moyen-Orient vers l'Europe, et il se trouve ainsi coupé. Donc là, vous avez des soldats égyptiens en buvant un Coca-Cola avec le patron Nasser. C'est le 1er novembre 1956, apparemment. Alors, en Égypte, les ressortissants français et britanniques sont assignés à résidence dès les premiers bombardements. La radio noire, je pense que c'est la française, celle de la radio de l'Égypte libre. C'est Chypre qui dit ça, pardon, excusez-moi. Dit que le but de l'intervention militaire est de rétablir le général Naguib au pouvoir en remplacement du traître communiste à la solde des sionistes, Raïm Gamalov, donc Gamal Nasser. Donc là encore, évidemment, ce genre de propagande anti-sioniste des Français et des Britanniques exaspère les Israéliens, comme vous pouvez le comprendre. Quant à Nasser, bon, il y a eu un petit moment de flottement au moment des premiers bombardements, ça a duré 2 ou 3 heures, pas plus, et puis ensuite il s'est repris, et il fait des discours sur un ton churchillien pour rappeler à l'Union nationale « Mieux vaut la mort que l'esclavage, l'impérialisme a toujours été en embuscade pour empêcher le bien-être des Égyptiens, il dénonce le complot ». Et il trouve une excuse dans l'ultimatum franco-britannique pour expliquer le retrait des forces égyptiennes du Sinaï. Et en style churchillien, on se battra village par village, maison par maison. À l'ONU, les vétos franco-britanniques amènent les Américains à utiliser une procédure rarement utilisée à l'ONU qui avait été inventée lors de la guerre de Corée. En cas d'absence de décision du Conseil de sécurité, si la majorité de ses membres en décide, l'affaire est transmise à l'Assemblée générale, et ceci sans qu'il puisse y avoir de veto. Et donc, les Américains obtiennent la majorité au Conseil de sécurité pour transférer le dossier à l'Assemblée générale. Dans la nuit du 1er au 2 novembre, Foster Dulles fait un brillant discours devant l'Assemblée générale. D'un cœur lourd, il doit s'opposer à 3 nations qui sont pourtant chères aux États-Unis. L'action franco-britannique est inacceptable. Si on rejette le principe de renonciation à la force, il n'y a plus qu'à déchirer la charte de l'ONU et vivre dans l'anarchie. Le danger est de voir ce qui a été présenté comme une action de police peut déboucher sur une situation bien plus grave, plus que celle de la Seconde Guerre mondiale. En gros, les Américains donnent la priorité à l'ONU sur l'OTAN. Et on fait appeler un cessez-le-feu immédiat et un embargo militaire. La résolution à l'Assemblée générale obtient 64 oui contre 5 non. C'est-à-dire les Français, les Britanniques, les Israéliens, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, même discours public d'Eisenhower le 2 novembre, il ne faut pas tolérer l'agression armée parce que sinon il y a un risque de troisième guerre mondiale. Grâce à son action déterminée, l'administration Eisenhower prive l'Union soviétique de toute volonté de se poser en acteur majeur sur la scène moyen-orientale. La direction soviétique est de toute façon trop accaparée par la situation en Hongrie et Pinault n'arrive pas à faire croire aux Américains que les Soviétiques préparent un pont aérien à destination de la Syrie. Il faudrait passer par la Turquie et demander l'autorisation de survoler la Turquie et éventuellement l'Irak, ce qui quand même paraît difficile. Alors la question du délai devient cruciale. On peut certes avancer l'envoi des parachutistes français et britanniques sur le canal, mais ces parachutistes ne peuvent pas tenir le terrain pendant 2 ou 3 jours avant le débarquement des forces qui arrivent de Malte. Et les Anglais ont le souvenir de la catastrophe de la bataille d'Arnhem en 1944. Vous savez, un pont trop loin. Les parachutistes britanniques avaient été parachutés trop loin des lignes et ils s'étaient retrouvés face à une division allemande et ils avaient été décimés. Donc c'est la bataille d'Arnhem, un pont trop loin. Et donc ils ne veulent absolument pas avoir le retour de cette situation. La mémoire de la Seconde Guerre mondiale est permanente. Hein. C'est des 11 ans avant. Les responsables militaires britanniques, en plus, ne savent pas ce qui s'était dit à Sèvres. Ils ne savent même pas qu'il y a eu Sèvres. Ce qui donc les conduit à aller selon le plan prévu, tandis que les officiers français savent ce qu'il y a à Sèvres et exigent qu'on aille plus vite. Mais ils ne peuvent pas dire aux Britanniques le contenu des entretiens de Sèvres. Vous voyez la complexité de la situation quand on devient trop compartimenté. Et de plus, les officiers britanniques accusent les Français de collaboration avec les Israéliens, ce qui est vrai, mais ils ne savent pas que le gouvernement britannique était d'accord, puisque les Britanniques sont censés ne pas être au courant de ce qui s'était décidé du côté israélien. Alors, Nasser, le 2 novembre, va à Al-Azhar, la grande université islamique, le grand centre religieux musulman, pour participer aux prières du vendredi et fait un discours de combat avec une tonalité religieuse, lutte contre le complot impérialiste de la France, de la Grande-Bretagne, d'Israël contre l'Égypte. Il justifie évidemment le retrait du Sinaï et se montre prêt à accepter une force d'interposition de l'ONU. Ce qui n'a jamais eu lieu jusqu'ici puisque l'ONU n'a pas de force. Et Nasser fait savoir à l'ambassade américaine par le biais de Haïkal qu'à la limite, l'Égypte serait d'accord que la 6e flotte américaine serve de force de l'ONU. Enfin, les troupes de la 6e flotte américaine, celle de Méditerranée, servent de force de l'ONU. Donc on voit le secours ne peut venir que des États-Unis, pas de l'Union soviétique pour Nasser à cette date. Alors, les Français et les Anglais disent aux Américains, vous sacrifiez la Hongrie pour Suez, et les Américains disent, non, c'est vous qui le faites. L'élément supplémentaire, Foster Dulles est hospitalisé d'urgence et on découvre qu'il a un cancer. Et donc, pendant les jours qui suivent, le secrétaire d'État américain est en incapacité d'agir, et c'est Eisenhower qui gère directement. Je rappelle ce que j'avais déjà dit l'année dernière. Les contemporains ont eu toujours l'impression qu'Eisenhower était un peu stratosphérique, qu'il laissait faire ses subordonnés, alors que l'ouverture des archives américaines ont montré en fait qu'Eisenhower contrôlait tout, de A jusqu'à Z. Simplement, c'était... Il fonctionnait comme un général avec un état-major. Pour lui, le gouvernement américain était un état-major. Lui donnait les instructions et ensuite les officiers d'état-major devaient les appliquer et surveiller l'application. C'était un mode de gouvernement qui n'est pas un mode de gouvernement civil, en quelque sorte. Alors, les anglo-franco-britanniques, avant même de débarquer, disent que ce pourrait être eux la force d'interposition. Mais ce n'est pas crédible. Alors, ce qui va être l'agent de tout ça, c'est le ministre des Affaires étrangères du Canada, Lester Pearson, qui se saisit de l'idée de force d'intervention. Il s'est séparé des Britanniques, bien qu'il soit son pays soit membre du Commonwealth et de l'OTAN. Sa première idée était de faire une conférence internationale sur le Moyen-Orient, mais surtout de constituer une force internationale d'interposition. C'est lui qui persuade les Américains de créer cette force qui est constituée, dont la création est décidée dans la nuit du 4 novembre aux États-Unis par 57 voix contre 0 et 19 abstentions. C'est à ce moment-là que les troupes soviétiques entrent à Budapest. Donc, vous voyez, sur la New York Times, à la fois, on annonce le débarquement et la progression des troupes soviétiques. Et le lendemain, les Soviétiques se sont emparés de Nye. La délégation US à Budapest est sous le feu. Et en même temps, l'Assemblée des ONU appelle à la constitution d'une force truce, de paix en quelque sorte, on dirait aujourd'hui, d'interposition. En fait, Nye va se réfugier à l'ambassade de Yougoslavie, et ensuite, quelques jours après, les Yougoslaves le livreront aux autorités hongroises nouvelles, et il sera exécuté quelques mois après. Alors l'armée hongroise se laisse désarmer, mais les insurgés continuent à résister en dépit de leurs moyens dérisoires. L'armée écrase de tout son feu les tentatives de résistance. Alors là, vous avez la couverture de Time Magazine. C'est pas une photo, hein, c'est une image constituée à partir de photos pour représenter un freedom fighter hongrois. Ce sera une image iconique, comme on dit aujourd'hui, représentative des événements hongrois et de façon générale des combattants de la liberté. Mais il ne s'agit pas d'une personne spécifique, hein, c'est une composition faite par les iconographes de Time Magazine. Le problème souvent des couvertures de Time Magazine, c'est qu'elles sont très belles du point de vue artistique, mais ce sont des compositions. Et les gens ont tendance à les prendre pour des photos. Et donc, parfois, ça donne lieu à des contresens. Hein. En 1990, Time Magazine avait fait une photo, enfin, une composition représentant Saddam Hussein en Hitler, et les gens ont cru que c'était une vraie photo. Et donc, il y avait eu controverse à l'époque. Alors, les combats vont durer jusqu'au 6 novembre. Les destructions sont considérables. 210 000 Hongrois vont se réfugier à l'ouest via l'Autriche et le nouveau pouvoir les laisse partir en disant « comme ça, on se débarrasse des indésirables ». Il faudra attendre le début de 1957 pour que la frontière hongroise devienne complètement fermée. L'accueil sera chaleureux en Occident. 150 000 Hongrois s'installeront aux États-Unis, la France et la Grande-Bretagne en prenant chacun 30 000 et puis le reliquat dans les autres pays européens. La mauvaise conscience de ne pas être intervenu a justifié cet accueil privilégié pour les réfugiés hongrois. Alors vous comprenez aussi aujourd'hui, quand la Hongrie a cette politique aussi restrictive de, par rapport aux migrations, les Occidentaux, enfin les gens de l'Ouest leur disent, mais écoutez, quand même, nous, en 1956, on a accueilli vos réfugiés. Alors à Londres, on commence à vaciller parce qu'on sent que, avant même d'avoir débarqué, toutes les positions britanniques au Moyen-Orient sont en jeu. Mais c'est finalement dans la nuit du 4 au 5 que l'on donne l'ordre d'envoyer les parachutistes. Donc vous voyez les premiers parachutistes au-dessus de Port Saïd le 5 novembre. Militaires égyptiens avaient cru jusqu'au bout que l'offensive irait plutôt du côté d'Alexandrie, selon le premier plan allié, et pas sur Port Saïd. On distribue des armes légères à la population de Port Saïd. Nasser lui-même se rend dans le canal à Ismaïlia pour voir la situation et trouve donc que le moral des troupes est plutôt bon.